Vous écoutez, on lit pour vous.
25 ans de confrontation entre Occident et Islam radical. Mais pour quel résultat? Un texte de Mathieu Carbas paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000, un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, les guerres contre le fondamentalisme islamiste. Le 11 septembre 2001, l'Occident ouvrait brutalement les yeux sur des concepts tels que islam radical, djihadisme ou encore terrorisme islamiste. Depuis, des guerres ont été menées en Afghanistan, en Irak et en Libye. Des positions de l'État islamique ont été bombardées en Syrie et en Irak, mais pour quel résultat? Le Devoir s'est entretenu avec deux spécialistes de la question et livre ici quelques pistes de réflexion. Je dois ma carrière à Oussama Ben Laden. Francesco Cavatorta plaisante aujourd'hui, mais le professeur au département de sciences politiques et à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval sait que, sans l'ancien chef d'Al-Qaïda, son parcours professionnel aurait été tout autre. Depuis le 11 septembre 2001, il consacre sa carrière au mouvement islamiste, à l'étude de l'islam politique et radical et, plus largement, à la géopolitique dans le monde arabo-musulman. Ce jour-là, c'est l'échiquier mondial qui a basculé à la vitesse de deux avions de ligne envoyés sur des tours de bureau. Tout juste sorti de 50 ans de guerre froide, l'Occident, du moins le grand public, découvrait le terrorisme islamiste. Il allait se lancer dans une guerre contre un nouvel ennemi qui avait eu l'imprudence de toucher l'impérialisme américain en plein cœur, le fondamentalisme islamiste. Dans les années 1990, des chercheurs comme Benjamin Barber prédisaient déjà que les perdants de la mondialisation trouveraient un moyen de répondre aux défis qui les font perdants, avec un retour au tribalisme, au nationalisme exclusif très poussé et à la religion. Tous les perdants, quels qu'ils soient, allaient revenir vers des facteurs identitaires, l'ethnie, le clan, la religion, résume Francesco Cavatorta. Le 11 septembre viendra cristalliser cet état de fait, tout comme les attaques terroristes du Hamas qui, le 7 octobre 2023, feront 1 200 victimes et près de 250 otages en Israël. D'un 11 septembre à un autre. Pour Rachad Antonius, professeur titulaire retraité au département de sociologie de l'UQAM et solidaire de la cause palestinienne, le véritable point commun entre le 7 octobre et le 11 septembre tient dans le fait que chacun des événements représente le résultat de l'histoire et non pas son point de départ. Et selon lui, l'effet structurant est à chercher dans le rapport colonial avec, pour point de départ, le choc pétrolier de 1973 pour le 11 septembre et la création de l'État d'Israël en 1948 pour le 7 octobre. Le sociologue rappelle que le 11 septembre est né de l'effondrement des mouvements nationalistes laïcs au Moyen-Orient dans les années 1970 et du soutien de l'Occident aux mouvements islamistes radicaux. Cette nouvelle donne politique a coïncidé, selon lui, avec l'avènement de l'Arabie saoudite devenue, grâce au choc pétrolier de 1973 et à la manne financière qu'il a générée, une nouvelle puissance régionale et un joueur incontournable sur l'échiquier mondial. Pendant 30 ans, l'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis, a travaillé à faire de l'islam le cœur de l'idéologie politique dominante dans la région. Le 11 septembre est né de ça, explique Rachad Antonius. Les racines du 7 octobre sont également liées à un rapport de force coloniale, selon lui, avec la création de l'État d'Israël en toile de fond. L'écrasante majorité des habitants de Gaza sont soit des réfugiés de 1948, soit des descendants des réfugiés de 1948. Pour eux, La Nakba, la catastrophe, désigne l'exode des centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas le passé, c'est le présent, explique le spécialiste des sociétés arabes et des conflits au Proche-Orient. Rachad Antonius évoque aussi la violence subie par les Palestiniens depuis 1948, ainsi que la marginalisation par l'État hébreu des mouvements pacifiques palestiniens pour tenter d'expliquer les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Vous écoutez 25 ans de confrontation entre Occident et Islam radical, mais pour quel résultat? Un texte de Mathieu Carbas paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir. Quel résultat pour la guerre contre le terrorisme? Depuis le 11 septembre 2001, l'Occident a mené plusieurs opérations militaires contre les djihadistes d'Al-Qaïda ou de l'État islamique en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, pour des résultats très relatifs. D'un point de vue physique, on est peut-être plus en sécurité, dans le sens où la police et les services de sécurité, dans les gares, les aéroports, à travers les systèmes de vidéosurveillance, etc., sont vraiment entrés dans nos vies, affirme Francesco Cavatorta de l'Université Laval. Cependant, note le chercheur, s'il est relativement simple pour une puissance occidentale de renverser le régime d'un pays moins développé, y faire naître une démocratie saine est une toute autre paire de manches. La guerre en Irak de 2003 à 2011 a été tragique pour les Irakiens, qui sont aujourd'hui dirigés par des élites corrompues. A-t-on amélioré leur situation? Cette idée de guerre contre le terrorisme, de guerre contre un concept, c'est particulièrement compliqué, surtout quand on n'a pas une idée claire de ce qu'on veut faire après, affirme M. Cavatorta. Dans les sociétés occidentales, cette guerre contre l'islam radical a aussi laissé des traces dans notre vivre ensemble. On est devenu plus polarisé, plus méfiant, plus dur les uns envers les autres, moins enclin à faire un pas vers l'autre. Cette dynamique ne rend pas une société plus sécuritaire, mais plus schizophrène. C'est vrai dans nos sociétés occidentales, c'est vrai aussi dans le monde arabe, explique-t-il. La construction de l'islamophobie. Si M. Antonius désigne le colonialisme comme ciment commun au 11 septembre et au 7 octobre, il déplore que la résistance à ce colonialisme ait pris des formes religieuses obscurantistes. Selon lui, c'est cet islam intransigeant avec la modernité qui nourrit depuis l'islamophobie. Car en se retrouvant lié à la question de l'immigration, le fondamentalisme islamiste et sa perception dans les sociétés occidentales sont devenus un enjeu sécuritaire et identitaire, polarisant. Au Québec, l'immigration arabo-musulmane de la fin des années 1990 et du début des années 2000 a voulu affirmer toutes les apparences de l'islam publiquement. Or, il y a une partie de cette immigration qui estime que la laïcité ne fait pas son affaire. Qu'est-ce qui arrive alors dans l'imaginaire? Une fusion entre ces deux phénomènes. Les images du conservatisme religieux amené par l'immigration et les images de l'islam politique, y compris dans ses formes violentes. C'est là que la femme voilée devient un danger, explique le sociologue. Et c'est de cette fusion qui s'opère à partir du 11 septembre que naît l'amalgame à l'origine de l'islamophobie, bien entretenue par certaines figures médiatiques et certains discours politiques. L'amalgame est inévitable dès lors qu'on cherche une confirmation de nos préjugés dans l'autre, affirme Francesco Cavatorta. On recherche toujours, pour se justifier, les voies les plus extrémistes dans l'autre pour montrer que l'autre est comme ça et entièrement comme ça. Le problème avec nos politiciens, c'est d'avoir fait de cet amalgame quelque chose de payant au niveau électoral. Pour Rachad Antonius, cet amalgame tient aussi dans le mot « islamophobie » qui induirait en erreur et nourrirait le racisme en profondeur. pour lutter contre l'islamophobie grandissante dans les sociétés occidentales, selon lui, il faudrait même bannir le terme « islamophobie » et privilégier plutôt le terme « racisme anti-musulman ». L'islam, c'est une religion, mais aussi une conception de l'ordre social. C'est la source d'une idéologie politique. Il est tout à fait légitime de craindre cette idéologie politique. Alors, si on nomme avec le même mot la peur légitime d'une idéologie politique et l'hostilité irrationnelle envers les musulmans, on est mal parti, conclut M. Antonius. C'était 25 ans de confrontation entre Occident et Islam radical, mais pour quel résultat? Un texte de Mathieu Carbas, paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir.
La révolution spirituelle, selon Véronique Chagnon, pour réécrire nos récits collectifs. Un texte de Rose Karine Henriques, paru le 12 décembre 2024 dans La Gazette des Femmes. Dans son essai « Au revers du monde », Véronique Chagnon livre un récit à la fois intime et critique sur les pratiques néo-spirituelles qui ressurgissent dans une époque marquée par des crises multiples et une perte de sens collective. Ce texte, publié chez Atelier 10, touche par la sincérité avec laquelle l'autrice raconte l'évolution de sa propre pratique tout en la contextualisant dans les dynamiques sociales et systémiques. Dès l'introduction de son essai intitulé « Le dérèglement », Véronique Chagnon raconte comment, poussée par l'instinct de survie, elle s'est tournée vers la spiritualité après une dépression. Ce premier chapitre, selon elle, fut le plus difficile à écrire car il expose la raison d'être du livre qui constitue un acte d'une grande vulnérabilité. Le processus d'écriture m'a permis de comprendre, de faire le lien entre ma dépression, le rythme de travail que je m'imposais et cette quête. Plutôt que d'imposer une vérité universelle, Véronique Chagnon invite son lectorat à entrouvrir une porte vers des savoirs ancestraux qui ont toujours existé. Mais comme quiconque, l'autrice n'échappe pas aux doutes qui surgissent devant la panoplie de pratiques, parfois enveloppées d'un marketing ostentatoire, de la tentation de vouloir des résultats immédiats, et de la reprise capitaliste de ces univers censés se soustraire au principe de la consommation. L'intention est avant tout d'attiser la curiosité et une autoréflexion patiente. Si vous l'oubliez au fil de la lecture, les rappels à l'intention de l'explorateur-exploratrice néo-spirituelle sauront vous le rappeler. Le piège des privilèges. L'accessibilité est l'un des grands paradoxes des pratiques spirituelles contemporaines. Les lieux dédiés à la pratique spirituelle, où l'on est censé se reconnecter à soi-même et au monde, restent généralement le privilège de certains groupes favorisés, un public majoritairement blanc, urbain et aisé. Il y a des freins à l'accès, des obstacles à ce que certaines communautés se sentent en sécurité ou représentées dans ces espaces, reconnaît Véronique Chagnon. D'ailleurs, celle-ci l'explique bien dans le chapitre « Au cœur des colonies spirituelles » où elle cite le cas du village de Nosara au Costa Rica, un exemple assez extrême des inégalités exacerbées par les colonies néo-spirituelles dans certains pays d'Amérique latine et d'Asie. Pour avoir marché dans les mêmes allées du Hippie Highway du village San Marcos au Guatemala, j'ai revécu dans ma lecture cet inconfort décrit par l'autrice. Comment peut-on concilier les valeurs de l'entraide bienveillante avec des actions relevant de l'exploitation du territoire et des traditions qui ne nous appartiennent pas? Quelques exemples plus loin, l'autrice nous dépeint heureusement l'envers bénéfique de ce monde plein de contradictions qui soulève la question de la redistribution des bénéfices générés par ces activités. De cette ONBL au Guatemala, dont la propriétaire utilise les profits pour former des sages-femmes guatémaltèques, à l'organisme d'économie sociale Kinawat, dans les Laurentides, qui réinvestit le surplus de son chiffre d'affaires dans des activités gratuites pour les personnes autochtones, il est possible de développer des démarches équitables. Aux yeux de Véronique Chagnon, intégrer une logique de circularité dans ses modèles économiques pourrait aligner davantage les pratiques sur les idéaux qu'elle revendique. La revanche du yin. Dans le chapitre « La revanche du yin », l'essayiste décrit l'opposition culturelle entre les énergies masculines, le yang, et féminines, le yin. Nous vivons dans un monde issu d'une révolution intellectuelle accordant immensément plus de valeur au yang, à l'énergie masculine, domaine de l'action, par opposition au yin, domaine de la réceptivité, des cycles lents et de l'émotion associée au féminin. Cette part de yin est celle que l'on retrouve dans notre réappropriation de l'invisible. Cette dynamique s'observe par la présence majoritaire des femmes, que ce soit comme participantes ou accompagnantes, dans les espaces spirituels. Selon Véronique Chagnon, cette réalité est en partie une réponse aux structures patriarcales. Existe-t-il alors un risque que, dans ce besoin de faire communauté, le poids du care leur assigne le rôle de prendre soin du monde? Cela pourrait être un poids supplémentaire sur leurs épaules, admet-elle. Elle nuance néanmoins cette observation en rappelant que beaucoup de femmes trouvent une véritable force et une joie dans la transmission de ces savoirs. Ces espaces deviennent alors des refuges. L'autrice émet tout de même une mise en garde en pointant également un double standard dans la manière dont cette industrie genrée est perçue et critiquée. Quand on demande aux femmes de cette industrie d'être plus vertueuses que tout le monde, de ne pas facturer trop cher, de redistribuer, de respecter des valeurs plus justes, cela reflète une attente disproportionnée. Une histoire d'utopie et de cycle. Selon Véronique Chagnon, la quête spirituelle ne se limite pas à un chemin individuel. Elle porte en elle le potentiel de transformer nos sociétés. Il y a tellement de pratiques spirituelles qui nous ramènent à notre interrelation avec tout, avec la nature, avec les autres humains, avec ce qui nous entoure. Observer les cycles de la nature, nous souvenir de notre appartenance fondamentale au reste du vivant, cela commence à modifier doucement notre regard sur la vie. Ensuite, cela influence nos choix, notre manière de vivre et d'interagir avec les autres. Peut-on aller jusqu'à espérer, par exemple, que les grandes entreprises s'inspirent des cycles naturels pour leur rythme de travail? Au sein de cette pointe d'idéalisme se tient une critique plus large de l'impossibilité d'aligner les espoirs de ces pratiques sur la réalité de nos besoins sociaux. Toutes les expériences citées dans le chapitre, une liste non exhaustive des choses spirituelles que j'ai essayées, accompagnées d'une estimation approximative de leur coût, dans un souci de transparence que l'on apprécie grandement, sont des outils qui ont le potentiel de soigner, de préserver, de nourrir. La lecture d'Au revers du monde offre une belle introduction dans un univers fascinant et enlève une certaine honte à celles et ceux qui ont déjà entrepris ce déplacement du regard sur le monde. Mais à quoi servirait-il de se soigner dans un monde qui poursuit vers sa lente mort? Je suis prise d'une envie pressante de déposer cette liste sur le bureau de mes patrons, car personne ne peut porter ce poids individuellement. C'était La Révolution spirituelle selon Véronique Chagnon, pour réécrire nos récits collectifs, un texte de Rose Karine Henriques, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes.
Traité moderne entre Ottawa et les Métis. Et si Louis Riel était encore en vie? Une chronique de Robert Falcon-Ouellet, parue le 4 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Il resta debout pendant des heures un jour froid de février, devant la majorité de la population réunie pour entendre sa Déclaration des droits en 1869. 155 ans plus tard, après des générations de promesses non tenues, une décision monumentale se présente désormais aux descendants des Métis de la Rivière Rouge. Ils doivent décider s'ils continueront d'exister sous le Canada tel qu'ils le connaissent, identifiés comme des personnes d'héritage métis, ou s'ils choisiront d'être gouvernés dans certains aspects de leur vie par un nouveau gouvernement des Métis de la Rivière Rouge. La signature du traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge marque un bouleversement majeur dans la relation du Canada avec les peuples autochtones et plus particulièrement avec les Métis. Pendant des décennies, les communautés Métis ont évolué dans un vide politique et juridique, souvent exclues des traités et des règlements territoriaux qui reconnaissaient les droits des Premières Nations et des Inuits. Pensons aux Nunavut. Cet accord, signé entre la Fédération des Métis du Manitoba, MMF, et le Canada, établit un traité moderne qui redéfinit la gouvernance métis et affirme le pouvoir politique de la MMF en tant que représentante unique et évolutive des Métis de la Rivière Rouge. Sous la direction du président de la MMF, David Chartrand, ce traité reconnaît non seulement les droits inhérents des Métis de la Rivière Rouge, mais il les établit aussi comme un gouvernement autochtone doté de compétences en matière de citoyenneté, de culture, d'éducation et de services à l'enfance et à la famille. Ces pouvoirs, définis dans des lois comme le projet de loi C-92 sur la protection de l'enfance autochtone, marquent l'évolution de la MMF, passant d'une organisation de défense à un organe gouvernemental. Mais ce traité va au-delà de la formalisation de la compétence, il envoie un message clair sur le poids politique de la MMF. En utilisant le terme « traité », traditionnellement associé aux Premières Nations, la MMF s'aligne sur les accords autochtones historiques, symbolisant sa détermination à tenir le Canada responsable des promesses passées et futures. Pour les communautés métisses à travers le Canada, ce développement a des implications profondes. Des questions subsistent. Le traité n'est pas sans controverse. Il positionne la MMF comme le représentant principal des Métis de la Rivière Rouge, éclipsant potentiellement d'autres organisations métisses en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario, qui revendiquent des histoires et des modèles de gouvernance distincts. Les critiques soutiennent que l'ouverture de la MMF à admettre des Métis vivant hors du Manitoba brouille les frontières et risque de monopoliser l'identité et la représentation métisse. Ce geste a été décrit comme un défi lancé avec un gant perlé, une affirmation audacieuse d'autorité et d'influence sur l'avenir de la gouvernance métisse au Canada. Pour le Canada, cet accord reflète l'engagement du gouvernement libéral envers la réconciliation, une pierre angulaire de l'agenda politique du premier ministre Justin Trudeau. Avec le ministre des Relations couronne autochtone, Gary Anandasangare, et le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, comme défenseur du traité, il met également en lumière les relations étroites entre le gouvernement fédéral et la MMF. Le ministre Vandal, lui-même fier métis du Manitoba, a joué un rôle clé dans l'avancement de cet accord historique. Cependant, des questions subsistent quant à la mise en œuvre du traité. Alors que Trudeau approche de la fin de son troisième mandat et que Vandal se prépare à quitter la politique, le temps presse pour adopter la législation nécessaire au Parlement. Sans feuille de route claire, le traité pourrait subir des retards, laissant les Métis dans l'incertitude. Cependant, il existe des précédents pour une telle législation, comme en témoigne l'adoption récente du projet de loi C-51, qui a donné effet au traité d'autonomie gouvernementale de la nation Dakota Whitecap. Dans son essence, ce traité est l'équivalent moderne des traités numérotés du 19e siècle, mais avec beaucoup plus de détails et de garanties. Il représente à la fois une continuité et une rupture dans la relation historique du Canada avec les peuples autochtones. Contrairement aux anciens traités, qui laissaient souvent les termes vagues et sujets à exploitation, cet accord reflète des décennies d'évolution juridique et politique, intégrant des concepts comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, et la reconnaissance constitutionnelle des droits autochtones en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Un choix à faire. L'importance de ce traité ne peut être exagérée. C'est un moment charnière pour l'autodétermination des Métis et une étape cruciale dans le cheminement du Canada vers la réconciliation. Mais il soulève également des questions fondamentales sur l'avenir de l'identité et de la gouvernance métisse. Les individus métis choisiront-ils de s'aligner sur le nouveau gouvernement des Métis de la Rivière Rouge en embrassant une identité autochtone collective ou resteront-ils dans le cadre du multiculturalisme canadien défini par leur patrimoine plutôt que par leur gouvernance? Pour Louis Riel, qui s'est tenu dans le froid glacial pour exiger justice et reconnaissance pour les peuples du Manitoba, ce moment serait doux amer. D'une part, il concrétise sa vision d'une nation métisse avec autodétermination et respect. D'autre part, il impose une réflexion sur les fractures au sein des communautés métisses et les défis de définir qui parle pour les métisses dans un Canada en constante évolution. Ce traité invite non seulement les métisses, mais tous les Canadiens à réfléchir au sens de la réconciliation et de la gouvernance partagée dans ce pays. Alors que le Parlement débattra bientôt de l'avenir des Métis, une chose est claire, le gant perlé a été lancé et les Métis prennent leur juste place dans la construction du destin du Canada. Texte en italique. Le point levé de Louis Riel dans l'air glacé ressent maintenant la chaleur d'un printemps réconcilié, devenant Première Nation, un destin partagé. La rivière murmure, un peuple à jamais lié. C'était Traité moderne entre Ottawa et les Métis, et si Louis Riel était encore en vie? Une chronique de Robert Falcon-Ouellette, parue le 4 décembre 2024 dans Espaces autochtones.